Mardi 16 novembre, il est 5h30 précise. C'est ainsi que débute l'émission L'Aérospatiale. Julie Gagné avec vous jusqu'à 18h30, toujours accompagnée de Jacques Gignac à la mise en onde. Aujourd'hui à l'émission, plein de choses comme à l'habitude, notamment on rencontre Anne-Marie Ninax qui va nous parler de l'exposition Chimère, Shimmer qui est présentée au Musée national des beaux-arts du Québec. Entrevue aussi avec Sébastien Clich pour son installation Microdrama qui est présentée à la Grande Galerie de l'œil de poisson. Chronique de Dominique Savoie aujourd'hui. Bonjour Dominique.
Salut.
Aujourd'hui tu nous parles... On t'a pas entendu, donc rebonjour.
Allô.
Aujourd'hui, tu nous parles de...
C'est pas ça que t'as dit salut tantôt.
OK, désolé. Salut.
Le message est clair, les salutations sont lancées. Tu nous parles d'une exposition qui est vraiment dans ton champ d'expertise.
Effectivement, je vous parle de l'exposition de Tania Lyons à la Galerie Materia.
Excellent, qui c'est l'exposition qui s'appelle
Dressing Up.
Et comme à l'habitude, on reçoit Éric Dorion pour nous parler hors audio. Bonjour Éric.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va bien.
Dit-il avec une légère hésitation.
Ah écoute, c'est ben oui, ça va bien. Oui.
Oui.
Ah ouh, ça va super bien. Et je suis accompagné de mon chien aujourd'hui.
Ben oui, Chouf, voilà. Pour les intimes.
Voilà, Chouf va vous parler de la sélection audio de cette semaine.
Et de... Qu'est-ce qu'elle va nous aboyer?
Wouf, wouf! n'importe quoi! Donc, cette semaine, excellent album. Ben, c'est toujours des excellents albums, mais celui-là, je dois t'avouer que j'ai un petit faible.
Il te touche particulièrement.
Il me touche particulièrement. C'est des deux artistes australiens, Robin Fox et Clayton Thomas. Robin Fox, peut-être que ça vous dit quelque chose? Ben oui, oui, c'est ça. Il était au Mois Multi 2010 avec le spectacle de Laser qu'il avait donné au Cercle et qui était accompagné de moi. Il y a toujours un rapport à moi finalement. Non, mais et puis j'ai eu l'occasion. Il m'a donné ce disque-là, un disque qu'on retrouve sur l'étiquette australienne Room 40, qui est un super bon label. Donc Robin Fox est à l'électronique et Clayton Thomas est à la contrebasse. Robin Fox m'expliquait, lui en fait, il a fait sa maîtrise. Son master en musique à Melbourne à l'époque et puis il est en percussion et puis il a décidé finalement de faire l'électronique et il a décidé d'apprendre un seul logiciel et c'est Max MSP et il a dit tant qu'à apprendre un logiciel je vais en prendre un bien complexe mais je vais toujours rien qu'utiliser lui et donc il se spécialise beaucoup dans la il génère des sons mais également il travaille souvent avec des artistes qui utilisent des instrumentations plus classiques dans ce cas-ci, bon, justement, avec une contrebasse. Et donc, il fait du traitement en temps réel de la contrebasse. Donc, ça se trouve être un
par
duo.
Par voie informatique.
Oui, voilà. Donc, on entend la contrebasse vraiment distinctement, mais également, les sons qui sont produits par la contrebasse se trouvent à générer des sons via le travail de Robin Fox. Donc, l'album s'appelle Substation. C'est un album qui date de 2005. On a des superbes pièces. J'aurais aimé ça. Écoutez, ça aurait été super. La pièce que je préfère sur cet album dure malheureusement 27 minutes 37.
Un extrait de 2 minutes, c'est pas assez pour l'apprécier.
Non, effectivement, puis c'est une pièce qui, j'irais à dire, qui va du côté très, j'irais à dire quasiment méditatif, donc avec c'est une espèce de mantra, là, et au début, c'était censé être une pièce qui serait en surround, mais ils n'ont pas pu développer le truc, donc ils l'ont gardé seulement qu'en format stéréo là, sur le disque, mais je vous le dis, si vous avez l'occasion de mettre la main sur ça, le label Room 40, comme je vous disais, vous pouvez aller voir le site web room40.org. .org. Et donc aujourd'hui, nous allons entendre les fabuleuses pièces Direct Couriers, Shuffle, Bird Song, et Between Downpours. Robin Fox, j'ai vraiment l'intention de le revoir. On est en train de travailler pour qu'il se repointe au Québec en 2011.
Il est toujours en Australie.
Toujours en Australie. C'est un type qui tourne à fond. Dernièrement, encore la semaine passée, je parlais via Skype et puis il me disait qu'il était en Chine. Présentement, il tournait en Chine. Donc, c'est un type qui se promène beaucoup et son travail est franchement fantastique. Donc écoutons, la sélection.
Hein.
Donc, avec Clayton Thomas, l'album Substation sur Room 40.
Ah, c'est KRL.
C'est KRL.
On vient d'entendre un extrait de l'album Substation de Robin Fox et Clayton Thomas, une suggestion d'Éric Dorion. L'extrait qu'on vient d'entendre est tiré d'une pièce qui s'appelle Direct Courrier. Vous êtes toujours à l'émission L'Aérospatiale. Avant de continuer plus avant, je vous invite à nous écrire à notre adresse courriel aérospatiale.ckrl@gmail.com pour des questions, des commentaires, des suggestions, pour vous nous faire part aussi d'expositions que vous avez vues, dont on n'a pas parlé, que vous avez appréciées. Bref, toutes les raisons sont bonnes pour nous écrire. On est toujours contents de vous lire. La semaine dernière, j'ai rencontré en entrevue Francis Arguin au sujet de son exposition « Mes économies à l'œil de poisson ». On reste cette semaine à l'œil de poisson puisqu'on rencontre Sébastien Clich qui nous présente l'installation Microdrama. Sébastien Clich, bonjour.
Oui, bonjour.
Ça va bien?
Très bien.
Dis-moi, Sébastien, est-ce que tu peux me présenter globalement Microdrama?
Oui. En fait, cette installation-là fonctionne par opposition, une opposition en deux espaces. Donc, visuellement, quand on entre, on voit une sculpture, une espèce de grosse maquette de cratère, quelques photos. On comprend qu'il y a un système. C'est pas des éléments présentés de façon très traditionnelle. Puis, au fond de la pièce, il y a une espèce de grosse boîte en bois. puis à l'intérieur de la boîte, ben là, on découvre un peu l'envers du décor, si on veut. Puis tout le projet, dans le fond, est basé sur l'opposition entre ces deux espaces-là.
Parce que, dans le fond, cette installation-là, ça constitue une sorte de narration qui est fragmentée.
Effectivement. Moi, je m'intéresse beaucoup aux narrations non linéaires, à la participation de spectateurs dans la construction du récit. Donc, je le fais souvent par des œuvres web où là, il y a une interactivité qui est plus manifeste par des choix, des boutons, etc., ce qu'on est habitué de voir en ligne. Mais j'essaie de le faire aussi en installation sans nécessairement avoir faire usage de ces technologies-là, où est-ce que finalement c'est le parcours du spectateur, puis la façon dont il collecte l'information, puis il fait des liens entre les éléments. C'est là que la narration ou que le récit se prend forme, en fait. Donc c'est vraiment différent pour chaque personne.
Parce que dans le fond, vous l'obligez à réfléchir sur ce qu'il voit, à établir des connexions finalement.
Exactement. Moi j'aime ça quand le spectateur doit prendre position. Donc il doit se demander, dans le cas de l'installation, bon, si on va un peu plus loin dans la description, quand on entre dans la fameuse boîte de bois, on réalise que c'est une espèce de poste d'observation, une salle de contrôle, un petit bureau, où quelqu'un, qui n'est pas là manifestement, mais un personnage serait en train de surveiller les éléments qui sont à l'extérieur. Donc là, on se demande qui surveille qui, puis est-ce que... Donc là, déjà, le spectateur doit se demander, de commencer à se poser des questions, puis commence à mettre les morceaux du casse-tête ensemble.
Ben oui, parce que dans le fond, le spectateur, quand il arrive dans cette espèce de cabine de bois, de console, de surveillance, il se retrouve à épier la personne qui surveille, dans une certaine mesure.
Oui, ouais, il y a un jeu comme ça, un peu de poupée russe, là, où finalement, il y a des différents modes de représentation, puis on se retrouve toujours à être dans la mise en scène d'une mise en scène, il y a une espèce d'effet comme ça où l'observateur est toujours observé. Puis ouais, je l'avais jamais vu comme ça, mais en fait c'est ça, parce qu'on entre dans un espace qui est assez restreint, puis qui est quand même mis en scène de façon à laisser les traces de quelqu'un, une trace plus ou moins intime.
Comme la trace de vin, par exemple, ou les petites miettes.
C'est ça, des petits biscuits, des vieilles tasses de café. Donc on un peu comme quand on rentre chez quelqu'un ou donc, c'est un espace de travail, c'est comme un petit bureau, mais comme tout espace de travail, on finit par le personnaliser, surtout quand on y passe beaucoup de temps. Il y a un sac de couchage aussi qui laisse croire que le personnage couche là, peut-être, de temps en temps, on ne sait pas trop.
Puis, est-ce que, parce que moi, j'ai eu l'impression, bon, qu'il y a une mise en scène, ça c'est certain, parce que surtout quand on entre dans la salle d'exposition, on se sent vraiment presque comme sur un plateau de tournage avec les lumières, avec, je crois qu'il y a des micros, bon, il y a des caméras. Est-ce que c'est comme une mise en scène d'une mise en scène, finalement?
Ouais, c'est un peu ça. Je pensais beaucoup à, quand j'ai élaboré l'installation, je pensais beaucoup à quelque chose qui était, une histoire qui était en train de se faire, en train de se filmer elle-même. Je pensais beaucoup en termes de... Il y a des éléments qui sont directement empruntés du cinéma, puis d'autres qui tiennent plus du monde du laboratoire ou de l'expérience. Donc, je voyais ça un peu à cheval entre les deux.
C'est ça, parce que votre travail dans cette installation-là, à tout le moins, c'est vraiment un travail d'une nature hybride qui est à la fois situé dans les territoires de la photographie, de la vidéo, de l'installation.
Exactement, oui. C'est un peu c'est un peu la façon dont je travaille de plus en plus, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui viennent de différents projets. Par exemple, les photos qui sont dans l'exposition viennent d'une production photo, mais du moment où j'ai commencé à faire ces images-là, c'était avec l'idée qu'ils se retrouveraient mis en relation avec d'autres choses, soit des textes, dans ce cas-ci, finalement, ça s'est retrouvé carrément, les images se trouvent filmées, en tout cas, une des images se trouve filmée, puis dans le circuit fermé, dans le téléviseur qui est dans le petit poste de contrôle, l'image qui était photographique redevient, à travers la vidéo, un lieu exagéré par la lentille grand-angle. Donc, je pense que c'est une espèce de convergence de différentes approches, là.
Puis ces photographies-là, en fait, bon, ce sont des photographies d'endroits qui sont abandonnés, qui semblent en déconstruction. Est-ce que vous intéressez un peu au thème de la catastrophe?
Ah oui, complètement. Ça fait depuis plus que 10 ans que je fais mes premières expositions, c'était sur les écrasements d'avions. J'avais inventé une compagnie qui s'appelait Disaster, qui se spécialisait dans les écrasements bien menés, propres et... Ouais, j'ai toujours travaillé un petit peu autour de ça. C'est juste que maintenant, la catastrophe est moins thématisée, est plus diffuse, puis j'essaie de l'incorporer dans des récits un peu plus ouverts, disons. C'est moins que les travaux que j'ai faits une dizaine d'années.
Puis qu'est-ce qui vous intéresse dans ce thème-là, dans la catastrophe?
Ben, la catastrophe, c'est sûr que quand on le dit catastrophe, c'est spectaculaire, c'est gros, mais pour moi, c'est toujours une métaphore pour des problèmes, des préoccupations psychologiques beaucoup plus intimes, en fait. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans la catastrophe, c'est en fait tous les systèmes de défense, toute notre paranoïa par rapport à ça. Donc, c'est moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est les systèmes de défense psychologique. Puis dans le cas de l'installation, ben c'est la rationalisation. Ça, c'est une façon dont c'est un mécanisme de défense de rationaliser, d'observer, de décortiquer. On se donne l'impression d'avoir du contrôle quand on décortique les choses de façon rationnelle. Ça nous permet en fait de garder un équilibre émotionnel. Donc tous les différents mécanismes qui servent à qu'on utilise tous les jours, c'est un peu ça moi mon sujet. Mais la catastrophe, c'est une version, c'est la version exagérée en fait de n'importe quelle menace en fait.
Puis, est-ce qu'on peut lier un peu, parce que, bon, moi, je reviens peut-être à la cabine, ce que j'appelle la cabine, peut-être une console de sécurité. J'imagine que vous établissez un lien sur l'omniprésence ou, comment dire, la paranoïa qu'on a vis-à-vis, justement, de la sécurité et la catastrophe?
Ben oui, par rapport à ce que je viens de dire, les mécanismes de défense psychologique qui sont personnels, la société les reproduit aussi à plus grande échelle. Puis plus on avance, plus on essaie d'éviter, en fait, non seulement les problèmes, des accidents, disons, physiques et les accidents psychologiques. Donc, tout ce qui est surveillance, tout ce qui est sécurité va dans ce sens-là aussi, parce que c'est des systèmes qu'on met en place, parce qu'on aimerait, en fait, ne pas avoir, si possible, l'utopie, ça serait de vivre, de prévoir le danger, un peu comme dans Minority Report, le film basé sur le roman de Philip K. Dick, où finalement, on pourrait prévoir à l'avance un méfait pour pouvoir le neutraliser avant même qu'il se produise. Donc, c'est un peu ça, c'est manifeste de quelque chose qu'on vit tout individuellement, mais qui prend des proportions plus grandes dans la société.
Qui est le symptôme, finalement, d'un malaise à plus petite ou à plus grande échelle, globalement.
Exactement.
Puis, bon, quand on est dans le... Peut-être la première partie de l'exposition, on voit justement bon, les photographies avec les lieux qui sont abandonnés, qui sont saccagés. Vous êtes toujours là?
Oui, oui.
OK. On voit comme la maquette qui ressemble à la surface de la Lune. Ça peut sembler assez éclaté, ça peut sembler aller dans des directions irréconciliables. Qu'est-ce qui unifie le tout?
Ben, c'est ça. Je pense que c'est le récit, en fait. Moi, je pars avec... différents éléments. À un moment donné, il y a quelque chose qui les organise. Puis dans ce cas-là, pour moi, le cratère, c'était l'objet d'étude, mais en même temps, c'est la trace de l'impact. Il s'est passé quelque chose, il y a eu une catastrophe. Après ça, on peut faire le lien avec les images. Donc, on n'a pas parlé non plus de la trame sonore qui nous amène...
Je voulais vous en parler, justement.
Aussi dans une autre direction. Puis moi, dans le fond, mon thrill, si on veut, comme artiste, c'est d'essayer justement de maintenir tout ça ensemble, puis de faire des sauts, qu'il y ait un intervalle assez grand entre les éléments d'un même dans un même système, si on veut, dans une même exposition, qui semble à quelque part pas appartenir à la même famille, mais qui on passe d'un à l'autre, puis il y a un effet un petit peu de déséquilibre quand on se met les écouteurs, puis on entend la musique. Je pense pas que pour la majorité des gens, c'est pas ça qu'ils s'attendent d'entendre, en fait. Il y en a qui m'ont dit que j'attendais d'entendre peut-être le bruit de la salle ou quelque chose, un bruit plus microscopique ou quelque chose qui a rapport avec ce qu'ils ont vu. Mais là, non, ils sont amenés ailleurs dans un autre espace qui fait plus référence au cinéma de genre, science-fiction, cinéma catastrophe, donc qui vient remettre une autre couche de lecture dans le récit. Fait que donc, je la joue pas facile pour personne, mais je pense que les gens réussissent quand même à voir les liens, là.
Ben, dans le fond, tout ça, quand même, ça crée une ambiance. Parce que moi, je me rappelle, quand j'ai mis les écouteurs, là, je me suis vraiment sentie, bon, dans la console, à regarder sur la télé, à regarder les images. Je me sentais comme soit justement à la veille ou après un drame.
Exactement.
Puis cette trame sonore-là aussi, on m'a dit qu'elle était appelée à évoluer de l'exposition.
Ben, en fait, c'est la précarité du... C'est une boucle, en fait. On n'en a pas parlé, mais c'est une boucle. C'est un bon vieux magnétophone à ruban, des grosses bobines, mais il n'y a pas de bobine, en fait, le ruban fait une boucle dans l'espace, donc il passe par différents anneaux en métal, puis finit par faire une boucle dans l'espace, puis évidemment, c'est assez précaire comme système, ça arrive souvent que le ruban casse, les gens à l'œil de poisson sont très gentils, puis ils trouvent une façon de le recoller, parce que je ne peux pas toujours le faire, puis évidemment aussi, c'est une boucle assez courte qui passe un peu partout dans le plafond. Il y a de la poussière. Donc, c'est sûr que la bande s'use prématurément. C'est pas comme si elle était bien enroulée dans des rubans. Donc, mais c'est pas quelque chose nécessairement auquel j'avais réfléchi avant de... Je me demandais juste si ça allait fonctionner, en fait.
Ben, en fait, moi, je trouve ça bien parce que si au terme de l'exposition, la musique commence à se déformer un peu, ça ajoute peut-être à la charge émotive, au sentiment de la catastrophe.
Ouais, ben en fait, j'y retourne vendredi pour un lancement chez Vue. Donc, je vais prendre compte de où on en est dans la dégradation, puis que je vais voir qu'est-ce que je fais à ce moment-là. Je suis un peu curieux, en fait, de voir où ça en est. Parce que c'est vraiment un système précaire, c'est pas le genre de choses qu'on fait normalement avec des bandes audio. Mais évidemment, même le fait que ça casse, au début, ça m'a catastrophé, pour utiliser le terme, mais finalement, je me dis, ben c'est un peu une catastrophe annoncée aussi, d'installer une bande comme ça dans un système aussi précaire, donc il y a une certaine logique. Le problème, c'est que quelqu'un qui n'a pas vu l'exposition avant, ben lui, il voit juste la bande cassée puis il n'entend pas la musique. Donc, ça, c'est le risque. Mais en tout cas, je suis en train de réfléchir à tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire puis qu'est-ce que ça implique, là.
Où est-ce qu'on peut amener ça? Dernière question. Sur comme une sorte de tréteau, il y a une citation.
Oui.
J'avais acquis la certitude d'avoir plus de chances de m'en sortir seul. Est-ce que ça agit comme un début, une conclusion au récit?
Ben, ça dépend. Je pense que ça dépend. C'est sûr que c'est aussi en suspension parce qu'on n'a pas la conclusion. Donc, il y a une certitude d'avoir plus de chance. Ça, c'est une contradiction en soi. Donc, c'est quelqu'un qui essaie, en fait, de se donner une certitude, justement, mais il est encore dans le domaine de la chance, puis du hasard. Puis de s'en sortir seul, en fait, on ne sait pas encore s'il s'en est sorti ou si ça reste en suspens. Je pense, est-ce que c'est une conclusion? Est-ce que c'est... ça dépend, en fait, à quel moment on porte attention à la phrase puis quand est-ce qu'on la connecte avec les autres éléments.
Ouais.
Il y a un truc que j'avais vu, un commentaire dans un article. La journaliste parlait de peut-être la première ou la dernière entrée d'un journal... du journal du personnage là, donc il y avait un peu cette idée-là, moi je le voyais, j'étais content de cette lecture-là parce que pour moi c'est une parole qui vient de ce personnage-là qu'on décrit tranquillement, mais pas justement dans un cahier ou sur un post-it dans la petite cabine est installée quasiment comme une annonce publicitaire On ne peut pas en faire abstraction, en fait. On est obligé encore là de... Puis aussi, il y a un autre basculement, parce que ce niveau-là de représentation, on ne l'a pas ailleurs dans l'installation. En tout cas, là, ça vient peut-être un peu abstrait pour les gens qui nous écoutent à la radio, mais...
Il faut aller voir, en fait. Pour bien comprendre. Merci beaucoup. Vous êtes à Québec vendredi?
Oui, lancement d'une publication à la galerie Vue avec l'auteur Serge Lamotte. Donc, cette fois-ci, c'est juste du travail photographique et les textes sont d'un autre auteur qui s'est inspiré de ces photos-là, donc dans la collection L'Image Annie.
Ben voilà, l'invitation est lancée. Sébastien Clich, merci beaucoup.
Puis, ben merci à vous.
Pour ceux qui sont intéressés à aller voir l'exposition, c'est Microdrama, c'est présenté à la Grande Galerie de l'œil de poisson.
Peut-être que je pourrais ajouter quelque chose.
Oui.
Au lancement vendredi, moi je serai là, puis exceptionnellement, même si On va ouvrir la galerie de l'œil de poisson si jamais il y a des gens qui veulent voir l'expo, qui ont des questions. En tout cas, je serai là avec l'installation vendredi.
Voilà, pour avoir le privilège de rencontrer l'artiste. Merci beaucoup. On s'en va en pause audio. On écoute Shuffle sur les ondes de CKRL 89.1. Il est fin. Toujours à l'aérospatiale, on vient d'entendre un extrait de Shuffle qui est tiré de l'album Substation de Robin Fox et Clayton Thomas, deux artistes australiens. Si vous êtes intéressé par cette sélection d'art audio, vous pouvez aller visiter le site room40.org pour avoir plus d'informations sur l'album. Avant de terminer la première demi-heure de l'émission, cette semaine, c'est extrêmement chargé du point de vue des arts visuels. Il y a beaucoup d'événements, notamment jeudi prochain à 17h, vernissage de l'exposition Menlo Park, trois machines Uchronique d'Olivier Asselin, Suzanne Leblanc et David Thomas. Le même soir aussi, vous pouvez vous piquer une petite course et vous rendre chez la CERT par la suite. Vernissage de l'exposition Inventaire d'une vie avant liquidation de Paul Lacroix. Le lendemain, si vous avez toujours de la volonté et de l'énergie, vous pouvez aller au vernissage de Jacques Sanson à Dizara, puis passer à vue pour voir l'exposition Humanitas de Caroline Ayer et Hors champ d'Émilie Rondeau. Outre ça, dimanche à 14h, étant donné que c'est cette semaine, c'est vidéaste recherché et qu'il y a plusieurs centres d'artistes de Québec qui ont fait des expositions pour l'événement, vous pouvez vous rendre à la bande vidéo à 14h pour avoir une visite commentée des expositions qui sont liées. Visite qui est commentée par Anne-Marie Bouchard, une ancienne collaboratrice de l'aérospatiale. Sinon, ben, vous pouvez aller voir toutes les informations pour Vidéaste rechercher sur le site Internet. Je pense que c'est vidéaste au pluriel .labandevideo.com. Et là, vous avez vraiment tout l'horaire. Une exposition très intéressante aussi qui a lieu au cœur de l'église Saint-Dominique, l'église qui est juste à côté du Musée national des Beaux-Arts, Norrois dans l'Hippocampe, qui est une œuvre médiatique de Myriam Lambert. Sur ce, on prend une pause, on se retrouve de l'autre côté où on jase avec Anne-Marie Ninax sur l'exposition Chimère.